Chez Sigos, en tant que formatrice, je comprends les besoins spécifiques de votre PME. À l'écoute de chaque participant, j'illustre mes formations avec des cas concrets, adaptés à votre environnement de travail. Sigos, c'est aussi le partenaire formation des PME.
BFM Business. L'émission qui vous sort de votre boîte. Happy Boulot, le mag. Erwan Maurice.
Et bienvenue si vous nous rejoignez ce week-end. Ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro d'Happy Boulot, l'émission qui veut vous rendre plus heureux au travail. Au programme de notre émission, l'amélioration des carrières professionnelles. Avec un cas très concret, le cabinet Grant Thornton qui a créé un poste de direction dédié. Nous recevons sur notre plateau Laurent Prost pour en parler, l'associé responsable de ce programme. Autrement, dans les sujets de notre émission, on va parler de la saison estivale qui approche et c'est maintenant que sont en train de se faire les recrutements saisonniers. On verra comment ça se profile pour cet été à travers deux cas concrets. Pour en parler, Cécile Padeloup du groupe La Poste et le restaurateur aussi Stéphane Manigold. Et puis en fin d'émission, le Labo RH, on parlera du congé bénévolat avec le leader européen de la néo-assurance Luco qui l'a mis en place dans cette entreprise et vous allez voir que ça fonctionne très très bien. Ça sera en fin d'émission. Voilà pour le programme. Vous n'hésitez pas aussi à réagir. Une seule adresse avec vous à bfmbusiness.fr. Vous nous posez toutes vos questions et on essaie d'y répondre dans les sujets que nous traitons avec nos invités. Merci d'être avec nous.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. L'entretien DRH.
Bonjour Laurent Prost.
Bonjour Herman Maurice.
Merci beaucoup d'être sur BFM Business avec nous ce week-end. Laurent, vous êtes associé du cabinet Grant Thornton. On peut rappeler d'abord Grant Thornton, cabinet de conseil, d'audit.
Grant Thornton est le sixième cabinet d'audit et de conseil en France et dans le monde. À peu près 140 pays couverts. Pour Grant Thornton France, ce sont 24 bureaux, 2700 collaborateurs et associés et 6 métiers représentés au sein de notre cabinet.
Et vous êtes responsable du programme Master Academy que vous avez lancé il y a tout juste un an et dont la mission est d'améliorer l'expérience collaborateur. En d'autres termes, faire en sorte que les salariés s'épanouissent pleinement dans leur carrière professionnelle, c'est ça?
C'est tout à fait ça. En fait, aujourd'hui, nous avons des collaborateurs qui sont en quête de sens. Et donc, nous avons voulu apporter une réponse concrète à des aspirations qui couvrent différentes thématiques. La compréhension des enjeux du monde, la compréhension finalement d'autres offres de services, les besoins qui sont derrière des offres de services et finalement de voir comment on peut répondre à une volonté de découverte, de diversité, d'apprentissage un peu différent par rapport au parcours classique de nos compétiteurs.
Ça part de quoi au tout départ? Qu'est-ce qui fait qu'il y a un an, puisque c'est à ce moment-là que mai dernier que vous lancez ce programme, vous vous dites, et la direction de Grant Thornton, il faut créer ce poste et il faut peut-être mieux accompagner nos collaborateurs dans leur carrière, dans leur évolution professionnelle au sein du groupe?
Il y a différents objectifs en fait par rapport à ce programme. Le premier, c'est la rétention des collaborateurs qui sont les nôtres aujourd'hui. Le second, c'est l'attractivité de nouveaux talents.
Parce que quoi d'abord? Excusez-moi, mais il y a un turnover qui fait que vous devez trouver des solutions pour garder ce savoir-faire.
Tout à fait. Comme tous les cabinets, nous avons du turnover, compris entre 20 et 30% selon les lignes de service. C'est entre guillemets un standard de la profession et nous faisons avec. Nous avons voulu apporter une réponse différente. Donc la Master Academy a deux enjeux. Le premier, c'est permettre la découverte des métiers au sein de notre cabinet. Donc ça veut dire que quelqu'un qui n'a pas de compétences de formation spécifique dans une thématique donnée peut aller faire une mission avec un prérequis de formation au sein d'une autre ligne de service. Mmh. Donc par exemple, vous êtes intéressé par la cybersécurité, vous êtes auditeur, vous pouvez participer à une mission qui a vocation à traiter cette thématique.
Et ça, c'est inédit, on ne pouvait pas le faire auparavant.
Pas nécessairement sous cette formule-là, puisque les métiers finalement proposent des offres de missions. Les collaborateurs peuvent postuler, nous avons mis en place un dispositif de gouvernance et donc, pour faciliter la découverte, les collaborateurs ont le choix dans un mercato numérique, pour appeler les choses comme ça, et donc ont une description digitale de l'offre de service qui est proposée, du stage, et en même temps une petite description. Et donc, ils peuvent aussi, en réponse, faire une candidature numérique pour vanter et finalement se proposer et faire valider leur candidature par le dispositif de gouvernance. Et donc, tout ça repose sur le volontariat à la base, il faut quand même le rappeler.
Ça fonctionne, ce programme, parce qu'on a un an de recul. Oui. Vous avez un an de recul chez Grant Thornton. Est-ce que vous avez les moyens aujourd'hui de dire... c'est efficace et on va poursuivre.
Tout à fait, c'est très efficace. Et en complément, je vais vous donner quelques clés de lecture sur le dispositif. En complément au dispositif de GT Journey, qui est la découverte donc de d'autres réalités métiers, nous avons un dispositif académique certifiant qui a été élaboré en partenariat avec l'ESSEC, une des plus grandes écoles de commerce française.
Vous travaillez avec une école de management.
Exactement. Pour aussi, et ce parcours est certifié. Donc, ce qui veut dire que notre
on a un
volonté.
Diplôme à la fin.
Exactement. Et l'ensemble du parcours permet d'aboutir à finalement des groupes projets et donc de travailler sur des thématiques qui émergeraient pour servir des problématiques cabinet, pour servir des problématiques personnelles de nos collaborateurs ou pour servir des problématiques clients.
C'est une manière d'être plus attractif étant donné la concurrence qu'il y a aussi dans votre milieu. Séduire des talents peut-être qui seraient allés, je sais pas moi, au BCG chez EY et qui finalement vont venir chez vous parce que il y a cet ADN qui est peut-être un peu différent de ce point de vue-là.
Oui, parce que la conjonction du parcours académique et finalement de la découverte d'autres réalités clients permet d'ouvrir les horizons à nos collaborateurs, de les rendre plus au fait de réalité de demain aussi, pas simplement d'aujourd'hui. Nous les emmenons à titre d'illustration en 2024 à la Silicon Valley pour se frotter aux thématiques de l'IA et du digital. Au retour, concrètement, on souhaite que les collaborateurs aient une autre perspective de ces sujets-là sur leur propre métier, mais aussi quand ils iront chez nos clients. Donc, on veut vraiment que finalement ce parcours soit très pratico-pratique et que les acquis finalement bénéficient à nos collaborateurs pour toute leur vie, dans la capacité à appréhender les choses, dans la capacité à porter le changement, à ne pas en avoir peur, mais aussi finalement à porter de nouvelles valeurs et de finalement des discussions de bon niveau chez nos clients.
Vous emmenez combien de personnes en Californie?
En fait, nous organisons une rotation sur deux villes clés, donc la Silicon Valley en 2024. En 2025, ça sera Singapour, puisque aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que beaucoup de choses se passent en Asie. Et donc, bien sûr, il faut qu'on tourne sur les deux univers que nous avons choisis, à la fois la compréhension du nouveau monde et le digital, qui sont deux briques parmi les autres de notre dispositif complet.
Pour tout ça, Laurent Poste, il faut aussi travailler main dans la main dans une très grande proximité avec les ressources humaines. Parce que vous n'êtes pas RH,
non.
Mais ce sont des sujets quand même complètement RH.
Ce sont des sujets RH qui font partie d'un dispositif d'ensemble mené par notre équipe People and Culture. Et donc, il y a beaucoup d'initiatives qui sont menées par notre équipe, qui est l'idée par Frédéric Zetoun, directeur général en charge de ce sujet, et de Christelle Le Costumeur. Le programme Master Academy est l'idée par mes soins. Je travaille avec la directrice de la formation, donc Elisabeth Toth. Et donc, nous réfléchissons à mettre tout en perspective avec déjà un cadre bienveillant. Tous nos associés ont signé une charte de bienveillance pour avoir un référentiel de management aussi différent des autres cabinets. Nous travaillons sur les blocs de formation, mais le parcours Master Academy n'est pas une formation. C'est un parcours de transformation.
Ouais.
Et en cela, finalement, nous voulons apporter une réponse concrète à notre taille par rapport à d'autres cabinets qui sont plus grands que nous, avec un parcours finalement qui nous différencie en termes de proposition de valeur sur le marché.
Par curiosité, vous parlez de cette charte de bienveillance, on va trouver quoi dedans ?
C'est tout du comportemental pour que finalement, à titre d'illustration, on puisse donner du feedback constructif à un collaborateur qui ne sera pas au niveau attendu. La capacité de faire grandir, démontrer sur le terrain. Donc, avec des feedbacks de collaborateurs qui participent finalement à ce dispositif depuis sa mise en place et de mesurer au fil du temps comment l'amélioration continue dans l'industrie, si effectivement les indicateurs s'améliorent et si notre taux de turnover s'améliore et si les collaborateurs disent du bien de nous par rapport à leurs traces chez nous.
On avait dédié il y a quelques semaines une émission au feedback. Justement, on a eu beaucoup de retours sur cette émission et le fait que, oui, c'est très important dans les entreprises de mettre du feedback. C'est aussi une attente des salariés. Est-ce que vous diriez que c'est facile, à travers cette expérience-là d'un an, de créer des passerelles entre les différents métiers ? Est-ce qu'il y a des cas concrets de réussite de personnes qui sont passées du conseil à l'audit ou l'inverse ?
Alors,
je ne sais pas.
C'est une bonne question, mais ce n'était pas nécessairement la vocation du parcours. Ce que nous souhaitions faire, c'était permettre des expériences nouvelles, en fait.
Oui.
Donc, vous l'avez bien compris. Ce que nous disent nos collaborateurs qui sont dans cette première session pilote, c'est qu'effectivement, tous sont ravis des apprentissages qui sont les leurs l'émission qui sont réalisées. En complément de ça, comme on est sur un parcours avec l'ESSEC qui est pratico-pratique, les acquis du parcours académique nourrissent aussi finalement l'évolution du collaborateur. Et donc le retour est aujourd'hui très très bon, puisque nous arrivons, grâce à ces deux dispositifs qui se complètent l'un à l'autre, et c'était notre souhait, de finalement de donner d'autres dimensions à nos collaborateurs pour faire d'eux des collaborateurs plus augmentés, même si le terme est un peu aujourd'hui usité, voilà, mais c'est quand même une réalité.
Pour vous, l'intérêt, c'est d'avoir des collaborateurs, des associés plus polyvalents aussi ?
Plus ouvert surtout, en phase avec les évolutions du monde et les challenges qui sont les nôtres. On parle de transition écologique, on parle de digital, il y a des impacts clés. Tout le monde aujourd'hui parle finalement du réglementaire sur la transition écologique, avec des obligations par exemple sur le reporting de CO2 ou d'autres, les gaz à effet de serre. On parle de l'IA, mais on parle pas de l'humain. Chez Grant Thornton, nous avons voulu mettre l'humain au centre finalement de notre stratégie, pour permettre à nos collaborateurs, même quand ils partiront, qu'ils soient nos meilleurs ambassadeurs à l'extérieur du cabinet.
Et pour terminer, vous n'avez pas peur que l'effet pervers de tout ça, ça soit qu'ils deviennent finalement encore plus attractifs et que vos concurrents aient encore plus envie de recruter chez Grant Thornton ?
On n'a pas peur de ça, pourquoi devrions-nous avoir peur ?
Ah non, parce que j'ai cru comprendre que vous vouliez aussi moins de turnover. Le but, c'est de conserver les équipes.
Exactement.
Ils vont devenir, j'imagine, une des petites pépites aussi pour les concurrents, non ?
Ça ne nous pose pas de problème, puisque les collaborateurs, dans l'évolution de ce dispositif, il a fallu le lancer, comme vous l'avez rappelé, c'était il y a un an. Et ce que nous voulons faire, c'est les faire participer à la suite aux évolutions que nous apporterons à ce programme. Donc, à partir du moment où ils auront vécu chez nous une expérience finalement qui les marquera pour leur vie, c'est ce que nous espérons. Et pour l'instant, c'est ce qu'ils nous disent. J'ai envie de dire, tout est ouvert pour la suite.
Merci beaucoup pour ce témoignage.
Avec plaisir,
Merci
Erwan.
Merci d'avoir été avec nous, Laurent Post, associé chez Grant Thornton.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. Le sujet sur la table.
Quelques secteurs sont en tension, notamment sur le sujet de la main-d'œuvre. Depuis 3 ans avec la crise sanitaire, c'est par exemple le cas de l'hôtellerie-restauration ou des transports. Alors, comment se profile l'été qui arrive ? Ça va arriver très vite, c'est déjà là quand on voit la météo. On parle d'emploi saisonnier ce week-end dans Happy Boulot et on en parle avec nos invités qui nous rejoignent. Bonjour Cécile Padeloup.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, vous êtes directrice du développement RH du groupe La Poste. Et avec vous Stéphane Manigold, bonjour.
Bonjour tout le monde.
Président de la branche restauration Paris de France, de l'UMIH, deux industries qui n'ont a priori rien à voir, mais en tout cas dans lesquelles, enfin vous allez nous le dire en tout cas, vous êtes là pour ça, dans lesquelles on a besoin de beaucoup de main-d'œuvre et de saisonniers cet été, vous confirmez ?
Absolument, on confirme.
Plus de 6000 personnes ?
C'est ça, plus de 6000 personnes pour La Poste, ouais. Pour La Poste cet été. 4500 facteurs et 1500 chargés de clientèle en bureau de poste. Donc c'est des volumes importants. Et la saison de l'été est la deuxième saison de l'année, puisque la première est celle des fêtes de fin d'année avec tout ce qui est livraison des colis. Où là, l'année dernière, on a recruté 9000 personnes.
Ah oui. Donc là, une grosse attente volumes. Sur cette période. Ça commence en juin, c'est ça, jusqu'en septembre, grosso modo ?
Exactement. En fait, on recommence les recrutements d'été maintenant, parce que les premiers besoins sont à partir du 15 juin jusqu'au 15 septembre à peu près.
Et vous arrivez à trouver, ou de la même manière qu'on va en parler dans un instant, mais dans la restauration, on a beaucoup évoqué les pénuries, la fuite aussi des personnes qui travaillaient là-dedans depuis des années et qui trouvaient que le secteur n'était plus suffisamment attractif. Comment ça se passe dans le courrier ?
Alors pour les jobs d'été, donc tout ce qui est emploi saisonnier, on arrive à retrouver parce que on communique beaucoup par le réseau des postiers qui eux-mêmes ont un réseau important puisqu'il y a 238 000 postiers, donc ça nous permet quand même d'avoir des relais d'information. Ce qui est plus complexe, c'est de recruter des alternants pour la rentrée de septembre.
Ah, pourquoi ?
On a une pyramide des âges qui est en décroissance, et puis le marché de l'alternance, il est très concurrencé, puisqu'il y a des aides importantes pour les entreprises, et on a de plus en plus d'entreprises qui font de l'alternance.
Comment on fait pour, à La Poste, pour être plus attractif, pour aussi, les alternants, c'est pas le sujet, mais malgré tout, c'est intéressant, attirer plus d'alternants.
Ouais.
C'est quoi les codes,
l'idée, c'est de leur proposer peut-être à l'issue d'un job d'été, puisque ça permet aussi d'avoir ce tremplin-là et de profiter de ces mois d'été pour se dire finalement j'aimerais bien rester, j'aimerais bien faire mes études dans cette entreprise.
Donc on peut rester après un emploi saisonnier à La Poste.
Absolument, absolument. On a beaucoup d'exemples concrets de transformation de job d'été en CDI ou job d'été en alternance. Et l'idée, c'est évidemment de leur proposer un diplôme, un métier intéressant, puisque on propose des postes de conseiller bancaire ou bien dans la data, dans l'IA, dans l'IT.
Stéphane Manigault, vous êtes restaurateur, vous êtes président de la branche aussi restauration par Île-de-France de l'UMI. On parle des saisonniers. Il faut regarder
300
aussi.
300 000
3, vous en cherchez 300 000
mais on va vivre une séquence absolument formidable. Vous voyez la séquence estivale et vous avez raison de la voir. Mais moi, je vois aussi la séquence Coupe du Monde de rugby qui arrive dès le mois de septembre-octobre. Je vois les Jeux Olympiques derrière qui arrivent. Donc, je vois toute une séquence. Et je m'alarme aussi sur notamment la sécurité pour les Jeux Olympiques. Il nous manque 20 000 agents de sécurité. 20 000, c'est énorme pour accueillir les Jeux Olympiques. Donc, ça veut dire que nous avons un chantier qui est formidable. C'est-à-dire que des touristes du monde entier qui vont vouloir venir chez nous, il va falloir mieux les accueillir. Et ça, je le dis à mes confrères hôteliers, restaurateurs, il faut faire le job. Il faut faire le job en termes d'accueil, de transparence, de sourire. Enfin, je veux dire, on fait un métier formidable qui s'appelle l'accueil des clients. On est des lieux de vie et des fois, on peut manquer de vie. Eh bien, moi, je dis, regagnons la confiance. Petit 1, de nos clients, déjà les locaux, parce que si on sait servir les locaux, on sera servi à les touristes, et petit 2, nos salariés, et il est urgent de le mettre en place.
Il va falloir beaucoup de saisonniers pour ça cette année. J'imagine même pas pour l'année prochaine, dans ce cas-là, avec les Jeux Olympiques. Là, ça sera plus 300 000 saisonniers.
Oui, là, on a déjà de grosses carences. Mais vous savez, je crois que notre secteur est en train de vivre une transformation formidable. Elle est souhaitée, souhaitable et obligatoire. Si on ne veut pas laisser place à l'intelligence artificielle, vous en parlez tout à l'heure, moi, je regarde avec beaucoup un regard de progrès, mais avec peur. Pourquoi ? Parce qu'avec l'intelligence artificielle, aujourd'hui, vous créez des recettes, vous créez des sites internet tout seul, vous créez des photos de plats qui n'existent pas tout en mettant une recette. Enfin, je veux dire, il faut regarder ça avec peur, parce que ça veut dire que demain, potentiellement, notre industrie peut se délocaliser dans d'autres pays pour pouvoir faire venir. Donc, il faut de la transparence dans notre secteur.
De la transparence, il faut de l'attractivité aussi, Stéphane Manigault. C'est ça, les salariés, les saisonniers, puisqu'on parle de ça aujourd'hui, le demandent, le réclament. Il faut leur donner envie de venir dans votre industrie.
Deux points majeurs pour vraiment leur donner envie, c'est premièrement le logement. C'est un vrai problème. Et moi, je pousse comme un sourd auprès des parlementaires, du gouvernement, pour assouplir les réglementations en termes d'avantages en nature pour qu'on puisse loger nos salariés. Je vous donne un exemple. Lorsque vous gagnez 3000 euros bruts par mois, ça, c'est le minimum, on va dire, conventionnel pour un directeur. Je prends des chiffres complètement aléatoires. Je peux pas décomposer, par exemple, 1000 euros pour le logement et 2000 euros dans la poche du salarié. C'est pas possible. Ça n'existe pas. Le minimum conventionnel, il doit être respecté. Eh bien, les chefs d'entreprise qui nous écoutent, la Belgique le fait très bien, par exemple. Moi, j'ai observé, la Belgique est un outil formidable en termes d'avantages en nature. Tout ce qui est au-delà d'un certain montant est taxé à partir de 50% sur l'impôt sur le revenu. Tout ce qui est en dessous, eh bien, vous mettez des avantages en nature.
Donc, voilà, le logement.
Premièrement, le logement.
Non, mais il y a le salaire aussi, Stéphane Manigault.
Le salaire, croyez-moi, il vient en 4e, 5e position.
Vous êtes sûr?
Mais je vais vous dire pourquoi. Le deuxième, c'est premièrement le logement. Deuxièmement, il faut qu'on arrive à créer, et ça nos amis corses l'ont fait, un CDI saisonnier. Parce que la précarité, lorsqu'on est saisonnier, elle est trop forte. Il faut qu'on ait un CDI saisonnier. Et vous verrez que le salaire, évidemment, il faut qu'il suive.
D'accord avec ça, Cécile Padeloup à La Poste. Enfin, est-ce que vous partagez le même point de vue? Est-ce que vous êtes confronté au même problème, typiquement? Les loyers, le problème du logement, l'attractivité de ce type de contrat aussi de saisonnier?
Absolument, en particulier en région parisienne et sur les régions touristiques côtières où effectivement se loger est de plus en plus compliqué. Ce qu'on arrive à mettre en place à La Poste, c'est d'avoir une solution de logement à proposer à nos collaborateurs.
Et ça, vous arrivez à le faire?
Et on a un service dédié pour ça.
Ce qui n'est pas le cas dans la
restauration. On peut les accompagner, effectivement.
Ah oui.
Mais il faudrait
le mettre en place.
On a dans notre secteur, on cotise tous ce qu'on appelle les complémentaires retraites. Il y a plus de 200 milliards de réserves. 200 milliards dans toutes les réserves, c'est un tas d'or. Eh bien, il faut répondre aux besoins des salariés. La retraite, ce sera pour certains dans 30, 40 ou peut-être jamais. Il vaut mieux construire maintenant, redonner. 200 milliards, vous en construisez du logement en France. Il faut s'assurer que vous réglez le problème du logement en France pour nos salariés. Eh bien, ça, par exemple, moi, je défends, je pousse à ce que Agirc-Arrco, qui a 86 milliards de réserves, eh bien, que ces réserves soient consacrées à construire du logement pour nos salariés, et qu'on casse la réglementation SRU pour que les maires puissent construire du logement pour les saisonniers, pour les travailleurs.
La facilité d'accès aussi à ce type de poste, parce que à la poste typiquement, les emplois saisonniers, ils n'ont pas besoin d'avoir sur leur CV tout un tas de diplômes. C'est-à-dire, on peut être saisonnier à la poste sans diplôme.
Effectivement, pour l'été, on peut être facteur sans avoir forcément un diplôme. On peut aussi en avoir un. Ce qui est important, c'est d'avoir un permis B, puisque évidemment, il faut se déplacer pour livrer les courriers, les colis.
On fait pas du vélo, déplacement en vélo, non, dans les grandes villes. Non,
si, il y a aussi déplacement vélo, déplacement
mais pas que.
À pied,
donc il faut, mais pas que. Il faut absolument avoir le permis.
Exactement, parce que quand on postule, on ne sait pas où on sera affecté. Et puis, pour les postes de chargé de clientèle en bureau de poste, globalement, un niveau bac permet d'occuper le poste. Sachant que les missions qui sont données aux saisonniers sont plus simples que celles qui sont données aux postiers qui sont confirmés.
Ouais. Bon, on arrive au bout. Comment on postule? Comment est-ce qu'on va dans la restauration? Comment est-ce qu'on va à la poste? Il y a un site, un formulaire.
Il y a un site de recrutement, bien sûr.
Vous avez déjà commencé à recruter sur les 6000 personnes que vous recherchez.
Exactement.
On peut encore postuler?
Bien sûr. Vous avez plein d'offres en ligne si vous voulez nous rejoindre.
Sur le site. Allez-y.
C'est lapostrecrute.fr.
Voilà, c'est parfait. Et pour les restaurants, on fait comment?
L'hôtellerie, bar, discothèque, très facile.
Avec son CV.
Allez directement en bas de chez vous, vous trouverez du travail. Même pas besoin de traverser la rue, vous voyez.
Et avec le CV ou pas?
On a plus de 400 métiers différents dans notre industrie. On est un escalier social exceptionnel. Vous pouvez démarrer tout en bas de l'échelle et finir tout en haut. On a des histoires incroyables. Donc c'est des métiers, qui sont en mouvement et qui changent. Et donc, L'image doit changer. Croyez-moi que je vais participer.
On prend le CV ou pas, Stéphane Manigol?
Quand on se pointe dans le bar. Venez travailler. Le CV, c'est l'ancien monde.
Parfait. Et ben voilà. Ben au moins c'est dit. Merci beaucoup à vous deux d'être venus pour nous parler de tout ça. Cécile Padeloup, directrice développement RH du groupe La Poste, et Stéphane Manigol, président de la branche restauration Paris-Île-de-France de l'UMIH.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. Le Labo RH.
Ouais, allez, une question pour terminer. Que diriez-vous d'avoir des congés supplémentaires pour faire du bénévolat? C'est ce qu'a mis en place le néo-assureur Luco, et on en parle avec vous, Florian Giraud. Bonjour.
Bonjour.
Ravi de vous retrouver. Vous êtes secrétaire général donc de Luco. On est dans l'assurance, mais enfin, c'est pas tant ça qui nous intéresse. Avec vous aujourd'hui, c'est cette idée de proposer à vos collaborateurs, à vos salariés, un congé pour faire du bénévolat. D'où elle vient cette idée?
Alors l'idée, elle vient du fait que Luco, c'est comme vous le disiez, de l'assurance, mais c'est aussi faire de l'assurance différemment, avec l'impact qui est au cœur du modèle, l'impact de nos produits, de notre proposition de valeur, mais aussi l'impact en tant qu'entreprise et l'impact pour nos salariés. Et donc l'idée, elle vient d'avoir beaucoup de salariés qui cherchaient à s'engager, qui manquaient de temps, et de leur donner ce temps dédié pour l'engagement auprès d'associations.
C'est pas commun du tout, le congé bénévolat, on a regardé un petit peu, ça existe dans 7% des entreprises, donc c'est encore vraiment très faible. Comment ça fonctionne exactement? C'est des jours supplémentaires. Donc vous, c'est combien de jours?
C'est 6 jours.
6 jours par an.
6 jours par an.
Dédiés au bénévolat. Donc on peut prendre un jour, deux jours, prendre deux jours d'affilée. Enfin, c'est un peu à la carte.
On s'organise un peu comme des congés normaux, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on prévient un petit peu en avance, etc. On les prend quand on veut. En fonction aussi des missions qu'on trouve. Et c'est non seulement du temps, c'est non seulement ces 6 jours, mais c'est aussi un accompagnement derrière pour trouver, en fonction des causes qui nous tiennent à cœur, les missions, les associations auprès desquelles donner ce temps.
Tous les salariés ont droit à ce congé?
Tous les salariés, on les encourage. C'est non seulement un droit, mais on les encourage en ayant cet accompagnement pour qu'ils puissent s'impliquer. Et il y a aujourd'hui 40% des salariés l'année dernière qui l'ont utilisé. Ça augmente d'année en année. Et on essaie de le promouvoir et de rendre encore plus facile au-delà des jours qu'on propose.
Donc ça fonctionne. Vous avez lancé ça il y a combien de temps?
On a lancé ça il y a 2 ans, un peu plus.
Et vous constatez que progressivement...
On voit déjà que ça prend. Déjà, il faut informer les salariés et puis encore une fois les aider, parce que souvent c'est à la fois le temps qui manque, surtout dans cette tranche d'âge qui est nombreuse chez Luco, entre 30 et 45 ans, et de permettre d'avoir ce temps où on peut s'engager sans compromis professionnel, mais aussi sans compromis sur son temps personnel, familial, etc.
Et vous le disiez, alors on choisit son bénévolat, vous allez faire comment? Proposer une liste dans laquelle on va regarder et dire tiens, ça m'intéresse, ou c'est nous qui venons avec une idée et qui vous proposons de nous permettre de profiter de 3-4 jours pour aller faire un bénévolat?
On peut venir avec sa propre idée. On a aussi une plateforme, on travaille avec Vendredi, qui est une plateforme qui permet d'avoir accès à plein de missions. C'est souvent le problème, on sait souvent où donner son argent, on sait souvent moins où donner son temps. Et c'est à travers cette plateforme qui propose de mettre en relation avec des assos et avec des missions concrètes, sur la base de compétences qu'on a, sur la base d'intérêts qu'on peut avoir aussi, de mettre en relation et de trouver les missions qui conviennent. Et
est-ce que vous avez eu la curiosité de peut-être regarder quels sont les bénévolats les plus choisis ? Est-ce qu'on va plutôt à la SPA ou plutôt... Resto du cœur, enfin plutôt du social, plutôt qu'est-ce qui fonctionne bien.
Alors on a regardé, donc il y a trois grands thèmes qui fonctionnent super bien. Il y a l'environnement, je pense que ça fait écho aussi à des préoccupations grandissantes, particulièrement sur cette tranche d'âge. Le deuxième, c'est l'inclusion. Et le troisième, c'est l'accompagnement vers l'emploi. On va aider notamment, par exemple, avec des partenaires comme Simplon, des gens qui sont un peu sortis de l'emploi, pour les reconvertir, pour les aider, etc.
Et alors, Florian Giraud, c'est vrai que quand on prend des congés, généralement, on aime bien ne pas partir tout seul. Est-ce que on va pouvoir faire ces missions de bénévolat en famille, avec des amis, ou elle est vraiment dédiée aux salariés uniquement?
Non, on peut le faire avec des amis, on peut le faire en famille, on peut même le faire entre collègues. Il y a quelques équipes chez Luco qui organisent des team building solidaires. Donc à plusieurs, ils vont nettoyer une plage, aider chez Emmaüs, faire une maraude, etc. Donc on peut le faire à plusieurs.
Tout ça, toutes ces mesures là que vous avez mis en place autour de ce congé de bénévolat, ça rend aussi l'entreprise, votre entreprise, plus attractive. Ça, vous le constatez, que les gens viennent aussi chez Luco. Parce qu'il y a cette mesure qui a été mise en place il y a 2 ans.
Oui. Le premier bénéfice, il est pour l'employé. Il y a évidemment un bénéfice aussi pour les assos qui ont répondu à leurs problèmes d'engagement avec de moins en moins de bénévoles, et des bénévoles qui s'engagent de manière moins fréquente, surtout sur cette tranche d'âge d'actifs. Et aussi pour l'entreprise, c'est un moyen d'attirer les talents. Vous le disiez, il y a un tiers des gens chez Luco qui sont venus en partie pour cet engagement, mais aussi d'engagement de nos salariés et de rétention. Ça donne un sens parfois à leur travail, ça augmente leur qualité de vie au travail. Enfin, il y a beaucoup d'avantages qu'on a pu noter sur cette initiative.
La bonne idée qu'on voulait mettre en avant aussi ce week-end dans Happy Boulot, le bénévolat en entreprise. On disait 7% seulement aujourd'hui des entreprises qui ont mis en place cette pratique. C'est peu. Peut-être que si vous nous écoutez, ça va vous donner des idées et l'envie aussi de sauter le pas. Merci beaucoup Florian Giraud d'être venu nous parler tout ça, secrétaire général de Luco. C'est tout pour aujourd'hui. Merci infiniment d'être fidèle à ce rendez-vous. Happy Boulot, c'est tous les week-ends et vous retrouvez cette émission bien sûr en replay, en podcast sur tous nos réseaux. Cette émission, c'est la vôtre. Si un sujet vous intéresse, vous continuez à nous écrire. On est avec vous toutes les semaines jusqu'à cet été, jusqu'au mois de juillet. Vous nous écrivez une seule adresse, avec vous, @bfmbusiness.fr. On se retrouve le week-end prochain. Jusque-là, soyez heureux au boulot.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. L'émission qui vous sort de votre boîte.
Chez Sigos, en tant que formatrice, je comprends les besoins spécifiques de votre PME. À l'écoute de chaque participant, j'illustre mes formations avec des cas concrets, adaptés à votre environnement de travail. Sigos, c'est aussi le partenaire formation des PME.